Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, K comme Kazan, Elia Kazan, avec Michel Simon, Florence Colombani et Fernando Ganzo.
My name is Elia Kazan. I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Un jour d'avril 1952, un homme puissant à Hollywood comme à Broadway, un homme fêté par la critique comme par le public, un cinéaste progressiste qui vient de sortir 2 mois plus tôt une ode à la révolution inspirée d'Eisenstein. Cet homme témoigne devant la commission des activités anti-américaines. Il livre 8 noms d'anciens collaborateurs, voire d'amis, qu'il dénonce comme communistes. Il n'est pas le seul, Robert Rossen et Edouard Mitrick, pour ne citer que, le font aussi, mais c'est sur lui que restera l'opprobre et l'infamie. 12 ans plus tard, un de ses plus grands admirateurs ici présent pouvait encore écrire « L'homme et l'artiste Elia Kazan provoquait au début des années 50 notre dégoût le plus légitime » et lors de son Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1999, une partie de la salle refusait encore de se lever pour l'applaudir. Incompréhensible à l'époque, son acte est apparu rétrospectivement comme le moment où Kazan est devenu Kazan et où son œuvre a pris la tournure introspective et torturée, violente et fiévreusement lyrique à la limite de l'opératique qu'on lui connaît, lui qui exprimait le sentiment le plus violent de la vie et la complexité de l'humain. L'eau du fleuve, sauvage ou non, a depuis coulé sous les ponts, le mur de Berlin est tombé il y a bientôt 3 décennies et la nouvelle rétrospective intégrale que lui consacre depuis mercredi la Cinémathèque française permet sans doute de jeter enfin un œil apaisé sur une œuvre qui ne l'est pas du tout. C'est ce à quoi vous invite aujourd'hui Plan Large avec 2 critiques, Michel Simon, auteur pour son premier livre en 1973 de l'ouvrage de référence sur le cinéaste, Kazan par Kazan, et Florence Colombani, qui a analysé son œuvre 30 ans plus tard dans Elia Kazan, une Amérique du chaos. En fin d'émission, Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, nous parlera d'un grand héritier de la méthode Kazan, cofondateur, rappelons-le, de l'Actor Studio, mais pour l'heure, retour aux origines.
Now, haven't you got just one little wish for yourself? Just one wish. Just for you.
Well, did you see it, Papa?
What?
Out the window. Our tree. They've killed it.
Well, will you look at that now?
They didn't have any right to kill it, did they, Papa?
Oh, now, wait a minute. They didn't kill it. Why, they couldn't kill that tree.
Honest?
Why, sure, baby. Don't tell me that tree's gonna lay down and die that easy. Look at that tree. See where it's coming from? Right up out of the cement. Didn't nobody plant it. It didn't ask the cement could it grow. It just couldn't help growing so much, it pushed that old cement right out of the way. But when you're busting with something like that, can't anybody help it? Like that little old bird up there. Listen to him. He didn't ask anybody could he sing. And he certainly didn't take any lessons. He's so full of singing, it's just got to bust out someplace. Why, they could cut that old tree right down to the ground, and a root would push up someplace else in the cement. You wait till spring, prima donna, and you'll see. Well, this ain't winning the family bread, huh? Come on. Ain't you got one nice little wish just for yourself?
No, Papa. I just...
Just what?
I just love you so much, Papa.
C'est le lys de Brooklyn.
C'est le lys de Brooklyn, très exactement. Florence Colombani, bien deviné, première figure de père dans le cinéma d'Elia Kazan. Il y en aura beaucoup d'autres, réelles ou symboliques. Une figure de père là qui sa fille voue un amour tout à fait infini. Un père alcoolique, velléitaire et raté, mais tellement sympathique. C'est un homme très courtisé par le cinéma qui accepte de tourner son premier film. Michel Simon, là, il tourne pour la Fox. Il aurait pu tourner pour d'autres studios. On est en 1945.
Oui, c'est-à-dire que d'abord, Kazan était un acteur à Hollywood aussi. Il travaillait pour la Warner, il a fait 2 films à Anatole Litvak au début des années 40, mais il s'est rendu compte que son physique le limiterait, il serait toujours un second couteau.
Il faut décrire son
physique. C'est un très bon acteur.
Il faut décrire le physique d'Elia Kazan, parce que c'est important aussi dans sa vie.
Des films?
Le physique d'Elia Kazan.
Bah écoutez, c'était oui, c'est pas un homme, c'était pas un Apollon, même s'il a eu énormément de succès auprès des femmes, mais ça a aidé sa réputation. Il était un grand charmeur, un grand séducteur et un homme très brillant. Mais c'était un Grec donc d'Anatolie, comme il le dit, un minoritaire, fils de marchand de tapis. Son père a fait un grand succès, puis le crash l'a détruit. Ça a été capital dans sa vie, comme dans celle d'Orson Welles, de Losey, de toute cette génération. Ils ont vécu le crash. Ça explique beaucoup leur engagement politique ensuite. Dans les années 30. Et oui, c'était quelqu'un qui, enfin moi je l'ai très bien connu et j'ai compris tout de suite en le fréquentant pourquoi il était le plus grand directeur d'acteurs de son époque, parce que il donnait l'impression à chacun qu'il rencontrait qu'il était la personne la plus importante. C'est-à-dire que quand il venait dans mon quartier, dans le 9e arrondissement, il parlait avec le marchand de journaux, avec la vendeuse de poissons, avec le kiosquier, avec n'importe qui. Et tout de suite, il engageait, même s'il parlait très mal le français, il s'intéressait aux gens. Et je pense que l'acteur a besoin d'être réconforté. Ça explique beaucoup, évidemment, bien d'autres raisons pour lesquelles c'est un grand directeur d'acteur. Mais il mettait en confiance les gens.
On n'en est pas encore tout à fait dans le Kazan qu'on connaît avec le Lys de Brooklyn. Florence Colombani lui-même se plaindra un peu pour ce film qui se passe donc à Brooklyn, comme le titre l'indique, dans les milieux des immigrés, des quartiers. Ça évoque un peu par moment des images qu'on voit dans Il était une fois en Amérique aussi, de Sergio Leone. Je pense qu'il a revu certainement le Lys de Brooklyn pour préparer ses décors, mais il trouve que tout le monde est un peu trop propre, tout le monde a l'air trop en bonne santé. Et finalement, pour qu'un acteur rentre dans la direction de jeu de Kazan, il faut qu'il sorte peut-être lui-même du système Kazan. Enfin, si on prend un acteur hollywoodien qui n'est pas en accord avec lui, ça marche pas tellement.
Oui, ce qui est assez frappant quand on voit le Lys de Brooklyn avec un regard rétrospectif, en sachant ce que Kazan a fait après, c'est qu'on voit les germes de ce qu'il sera comme dans sa grande époque, et surtout des thèmes. En effet, vous disiez la relation avec le père, un père qui est déjà, alors même qu'on est dans le cadre d'un film de studio, quand même assez lisse, c'est quand même un père problématique déjà. Et puis surtout, ce côté très ethnique, hein, cette histoire d'immigration. Alors là, c'est ancré dans un milieu d'Irlandais fraîchement arrivé aux États-Unis, mais avec toute cette couleur, ce thème de l'installation, du fait de se sentir étranger, du fait d'être toujours en décalage avec la société, d'être aussi des ennemis de l'institution, enfin considérés par des ennemis comme des ennemis par moment. Tout ça sont des thèmes qu'il développera plus tard, mais qui sont totalement lissés par la machine du studio, parce que Kazan, à ce moment-là, même s'il a une réputation comme metteur en scène de théâtre, n'a pas encore déployé ses ailes d'auteur. Donc il se contente de réaliser l'adaptation de ce qui est par ailleurs un best-seller. Donc il faut être assez fidèle au best-seller. Et puis en plus, son personnage principal est une petite jeune fille jouée par une star adolescente de l'époque qui s'appelle Peggy Ann Garner. Ce qui fait qu'il est là encore très contraint par le jeu assez cadré de la star enfant qui tourne des rôles de jeune fille sympathique à la file et qui donc n'est pas dans l'authenticité du sentiment.
Malgré tout, il vous dira, Michel Simon, quand vous allez en discuter avec lui, hein, pour vos entretiens publiés dans Kazan par Kazan, que c'était un peu la seule chose qui l'intéressait vraiment dans le film, c'était le regard de cette petite fille qui elle-même était marquée par le fait que son père était parti faire la guerre, enfin, qu'il y avait une tristesse en elle qu'il s'acharnait à capter.
Oui, alors c'est vrai que Kazan n'est pas un metteur en scène de cinéma né, comme Losey par exemple, ou d'autres comme Orson Welles, qui sont dès leur premier film une maîtrise du médium. C'est pas seulement qu'il vient du théâtre, parce que Losey et Welles venaient aussi du théâtre, mais il ne maîtrise pas vraiment la forme cinématographique dès le début. Cela dit, le Lys de Brooklyn est un très joli film dans l'esthétique de l'époque. Effectivement, c'est pas un grand film, mais c'est un film de grande qualité. Mais il ne va devenir cinéaste qu'après 3 ou 4 films. C'est à partir essentiellement de Panique dans la rue qu'il découvre vraiment le langage cinématographique en tournant hors des studios, en tournant dans les rues de la Nouvelle-Orléans, en faisant un film, un polar. C'est là qu'il se révèle comme cinéaste et puis très vite comme auteur, avec pratiquement une succession de films qui sont tous des films importants dans l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai qu'il a été limité. Ce qui l'intéressait, c'est les comédiens, effectivement, et Peggy Ann Carter en particulier, que c'est ce qu'il dit. Mais c'était le plus grand auteur de metteur en scène de théâtre de son temps, il faut le dire. d'ailleurs, en 1947, quand il tourne Le Mur Invisible, qui est un film de Zanuck, de la Fox, un film engagé, etc., sur l'antisémitisme, qui n'est pas non plus, qui a eu l'Oscar, mais il réussit la même année à avoir l'Oscar pour le Lys de pour, pardon, l'Oscar pour Gentleman's Agreement, donc, pour ce film Le Mur Invisible. Il a le grand prix de la meilleure mise en scène de théâtre avec All My Sons de Arthur Miller. C'est-à-dire qu'il est le roi de Broadway et le roi de Hollywood, ce qui est assez unique à l'époque.
Et la même année, 1947, il monte Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams à Broadway et peu après au cinéma.
You must be Stanley. I'm Blanche.
Oh, your star sister.
Yes.
Oh, hiya. Yeah, where's the woman?
In the bathroom.
Oh. Well, where are you from, Blanche?
I live in Oriel.
Oriel. Oriel, huh? Oh, yeah, that's right, Oriel. That's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot?
No, I rarely touch it.
Well, there's some people that rarely touch it, but it touches them often. Hey, you mind if I make myself comfortable? My shirt is sticking.
Please, please do.
Be comfortable. That's my motto, up where I come from.
It's mine, too. It's hard to stay looking fresh in hot weather while I haven't washed or even powdered. Here you are.
Well, you know, you gotta be careful. You're sitting around and damn thing gets you cold. Especially when you've been exercising hard like Bolin is. Well, you're the teacher, aren't you?
Yes.
What do you teach?
English.
Well, I never was very good English student. How long are you here for?
Well, I don't know yet.
You gonna shack up here?
I thought I would if it's not inconvenient for you all. Traveling wears me out.
Well, take it easy. Not those cats.
Voilà, comme Marlène Dietrich chez Sternberg, Marlon Brando fait très bien Miaou. C'est un extrait d'un tramway nommé Désir. Alors, comme le faisait très justement remarquer Fernando Ganzo, pendant que cet extrait passait, 1947, c'est aussi l'année où Elia Kazan cofonde l'Actor Studio. Vous allez nous en parler tout à l'heure dans votre chronique. Kazan, grand créateur d'acteurs, créateur de mythes, Brando, James Dean et tant d'autres. Et ce que vous avez remarqué très justement, Florence Colombani, c'est que on connaît le principe de l'acteur studio, faire parler ses blessures intimes, ses douleurs passées, les exploiter en tant qu'acteur et pour le cinéaste, mais c'est surtout leur corps qui les intéresse. Il y a 15 ans, parlait lui-même dans vos entretiens, Michel Simon, du corps éloquent, le corps éloquent de James Dean et toute la mise en scène d'Elia Kazan. À partir du moment, vraiment là, c'est le moment où il devient Kazan, tel qu'on le connaît, avec Un tramway nommé Désir au cinéma, c'est faire parler les corps. Toute la mise en scène est organisée autour.
Oui, je pense qu'on a une image de ce qu'est l'enseignement de l'acteur studio, qui en fait vient beaucoup plus de ce que Lee Strasberg a communiqué par la suite en devenant le porte-parole et un peu le gourou, que de ce qui était à l'origine le travail de Kazan et des gens du groupe Theater qui sont à l'origine de cet acteur studio. Donc ça, c'est une structure qui est fondée plutôt au milieu des années 30. Et par exemple, quand Brando apparaît, alors la révolution Brando, qui est vraiment une révolution esthétique, hein, et qui marque à la fois le théâtre, le cinéma, et on peut dire qu'après ça, les acteurs américains ne seront plus jamais les mêmes, c'est en effet là une révolution du corps, c'est-à-dire une façon de bouger dans l'espace, une façon de considérer que le corps de l'acteur raconte déjà l'histoire, mais aussi une façon d'utiliser son corps comme un instrument avec une grande technique. Et Kazan, toujours dans ses entretiens avec Michel Simon, souligne toujours énormément à quel point Brando était un grand technicien, qu'il était à la fois un excellent mime, un acrobate, quelqu'un qui savait faire de l'imitation, quelqu'un qui avait énormément de cordes à son arc. C'est pour ça que la simplification ultérieure de la technique de l'acteur studio à l'idée qu'il faut grossir pour un rôle ou ce genre de choses est en fait très fausse, parce que au contraire, il y a une sorte de conscience et de connaissance de ce que c'est que l'art de l'acteur chez les gens à l'origine du mythe de l'acteur studio. Et donc, dans Un tramway nommé Désir, il y a quelque chose d'assez fascinant et en effet de félin dans la présence de Brando à l'écran. À la fois, on a un texte qui est majeur, c'est quand même un véritable chef-d'œuvre littéraire et un classique du théâtre d'emblée dès qu'il est créé, que ce tramway de Tennessee Williams. Mais il y a aussi la façon dont Brando s'approprie le rôle d'une façon qui est presque encombrante, c'est-à-dire qu'après coup, on ne pourra plus jamais jouer Un tramway nommé Désir sans le fantôme de Brando, de même qu'on ne pourra plus le mettre en scène sans le fantôme de Kazan, puisque les indications scéniques qui sont dans l'édition qu'on a tous entre les mains d'Un tramway nommé Désir sont en fait celles de la mise en scène de Kazan que Tennessee Williams aimait tellement qu'il les a incorporées au texte de sa pièce.
Mais il faut dire, Michel Simon, qu'en rencontrant Tennessee Williams et en travaillant avec lui, Kazan rencontre une sorte d'alter ego en qui il se reconnaît. En tout cas, il reconnaît en lui la vision du rôle de l'artiste dans le monde. Que doit faire un artiste ? Et il reconnaît aussi en lui le personnage ostracisé à cause de son homosexualité à l'époque, dans lequel il se reconnaît. Il vous en parle beaucoup.
Oui, je suis d'accord sur l'idée du corps. C'est une chose évidemment capitale, mais elle est propre à beaucoup de metteurs en scène. C'est en ce sens que Kazan a pu ensuite facilement devenir, au bout de quelques années, le grand metteur en scène de cinéma, parce que le corps, chez Renoir, chez Eisenstein, chez tous les cinéastes, c'est une chose fondamentale. Mais c'est aussi, pas seulement le corps, c'est l'émotion, c'est-à-dire la technique de l'acteur studio. C'est tout de même la recherche de l'émotion dans les souvenirs personnels, c'est-à-dire travailler sur le passé de l'acteur, choisir un acteur qui vit ce que le personnage aurait pu vivre. C'est ce qu'il a fait en prenant James Dean, en voyant que c'est un chien fou avec en rapport avec son père qui avait des grands problèmes, etc.
Ou Vivienne Leigh dans le rôle de Blanche Dubois,
voilà,
qui est assez instable psychologiquement à ce moment-là.
Oui, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui est dans une situation et d'utiliser sa mémoire affective, et ça c'est capital dans le travail de Kazan, c'est la mémoire affective chère à l'acteur studio, et aussi le rôle des objets, c'est-à-dire on prend un objet, par exemple dans Le Fleuve Sauvage, l'irémique va avoir un idylle avec Montgomery Clift, mais il y a une serviette sous la pluie, elle est à l'intérieur de la maison, elle prend une serviette et cette serviette va devenir un moyen de sécher les cheveux de Montgomery Clift et va naître cette romance, cette histoire d'amour entre eux. Donc le rôle de l'objet, le rôle du corps est effectivement capital.
Hey, Friendly! John Friendly, come out of there! Friendly! Come on out of there!
You want another trouble with you? You think it makes you a big man if you give the answers? Well, at the right time, I'll catch up with you. Be thinking about that. Now go on, beat it. Don't push your luck.
Wait a minute, you! You take them heaters away from you and you're nothing, you know that?
You talk yourself in the river.
You take the good goods away and the kickbacks and a shakedown cabbage and a pistol arrows, and you're nothing. Your guts is all in your wallet and your trigger finger, you know that?
You ratted on us, Terry.
From where you stand, maybe, but I'm standing over here now. I was ratting on myself all them years. I didn't even know it.
Come on.
You give it to Joey, you give it to Dugan, you give it to Charlie, it was one of your own. You think you're God Almighty, but you know what you are?
Come on.
You're a cheap, lousy, dirty, stinking mug. And I'm glad what I've done to you. You hear that? I'm glad what I've done. And I'm gonna keep on doing it till I get to
the end of
it. Come on!
Je suis content de ce que j'ai fait, clame Terry Malloy, Marlon Brando dans Sur les quais, quand il s'en prend à Johnny Friendly, Lee Jacob, l'homme qu'il a dénoncé, scénario de Bud Schoelberg, qui lui aussi avait donné des noms à la commission des activités anti-américaines, double exercice d'auto-justification. Alors on va pas refaire le procès de Kazan, est-ce qu'il a eu raison ou pas, on en a déjà parlé de nombreuses fois avec vous, Michel Simon, y compris dans cette émission. Ce qui est très passionnant, c'est comment il va synthétiser ces questions-là. C'est-à-dire que on sent bien que le moment du tabassage collectif sur Terry Malloy qu'on vient d'entendre est important pour pouvoir endosser et surmonter cette culpabilité. Hein, c'est ce que vous écrivez, Florence Colombani, dans votre livre. Mais c'est aussi presque cet orgueil qu'a Elia Kazan, qu'il va montrer de film en film, dans tous ces films qui parlent de l'individu face au groupe, de comment le groupe peut mettre en danger l'individu, une sorte d'orgueil à être l'outsider, à être le mal-aimé, à être le réprouvé, et à en tirer surtout une force créative incroyable qui va dominer toute sa filmographie suivante. On pourrait mettre ce film en rapport avec Les Visiteurs, son avant-dernier film sur la guerre du Vietnam et sur l'impact de la violence américaine au Vietnam sur la société américaine. Ce sera sans arrêt son sujet, Florence Colombani.
Oui, c'est très paradoxal parce que la façon dont on peut lire l'acte du témoignage d'Elia Kazan devant la commission des activités anti-américaines, c'est bien sûr une façon de sauver sa peau. Enfin, c'est comme ça que, en tout cas, qu'il le présente à Arthur Miller à l'époque, juste avant de le faire. C'est-à-dire qu'il dit « Mais moi, je veux avoir une carrière au cinéma. Le patron du studio, Spiros Couras, m'a dit que je ne pourrais pas retravailler si je ne le faisais pas. Je vais le faire. » Donc ce serait une façon de s'intégrer au groupe. Or, c'est au contraire l'acte qui va l'isoler du groupe, dans le sens où bien sûr il peut tout à fait travailler alors que bien d'autres sont blacklistés. Donc c'est pas du tout pour qu'on s'apitoie sur son sort, au contraire il a tous les moyens pour faire des films, mais dans le milieu qui est le sien, qui est quand même un milieu d'artistes de gauche, il est considéré comme le traître, quelqu'un à qui on ne peut plus parler, et donc il se retrouve dans cette position de marginal qui est une position qui lui correspond profondément, puisque depuis l'enfance, il se sent ce marginal, ce fils d'immigré, qui, à cause de son physique aussi, détonne, à cause de ses origines humbles. Et il a tout cet imaginaire de l'outsider qui, finalement, se trouve confirmé par cette nouvelle situation. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une sorte de nouvelle force qui irrigue son travail. Et c'est absolument flagrant dans Sur les quais, qui est incontestablement un chef-d'œuvre, un film extrêmement en colère, extrêmement chargé de rage, où en effet le cri de Terry Marlon Brando à la fin ne peut être entendu que comme un cri de défi à la face de Hollywood. Par ailleurs, c'est un film qui fonctionne tout à fait si on ne connaît pas le contexte. Hein. Je pense qu'on ramène toujours Sur les quais à son contexte personnel pour Kazan, etc. Mais c'est un film admirablement construit, d'une très grande poésie dans son scénario, et avec parmi les plus belles scènes d'amour de l'histoire du cinéma entre Eva Marie Saint et Marlon Brando, et avec un rapport père-fils, puisqu'il y a ce mafieux Johnny Friendly,
un père symbolique, oui.
Un père symbolique, joué par Lee Jacob, qui avait joué le père de Mort d'un commis voyageur au théâtre sous la direction de Kazan, clairement un rôle de père, et donc ce rapport père-fils qui est extrêmement fort et extrêmement douloureux. Donc je pense que le film, hors de la métaphore, tout comme d'ailleurs Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller, qui est la pièce d'Arthur Miller sur le macartisme, fonctionne totalement hors du contexte.
Et surtout, on découvre, Michel Simon, quelque chose qui est très très fort chez Kazan, et qu'on verra de film en film, notamment par exemple dans À l'Est d'Éden avec le personnage de James Dean. C'est-à-dire que Elia Kazan n'a pas peur de prendre le parti du sale type, celui qui a priori est le méchant, celui qui n'est pas bien, et il va rester dans sa perspective et ne jamais prendre une sorte de distance en disant voilà, moi je n'y touche pas trop. Quand Kazan y va, il y va.
Oui, d'ailleurs, même si Kazan sûrement n'y a pas pensé, pour moi, À l'Est d'Éden, puisque vous le citez, Antoine Guillot, c'est les deux personnages, c'est-à-dire le fils propre sur lui, puritain, remarquable, à qui on peut rien reprocher, c'est Joseph Losey, et le mauvais fils, traître, pas sympathique, etc., mais tellement attachant, c'est James Dean, et c'est Elia Kazan. C'est-à-dire que effectivement, Kazan détestait le puritanisme, il détestait le communisme profondément. Je pense que son acte n'est pas du tout un acte. Bien sûr, ça, il voulait sauver sa situation parce que il était l'homme le plus célèbre d'Amérique et il perdait tout puisqu'il ne pouvait plus tourner. C'était évident, il était sur la liste noire. Mais c'est aussi une conviction profonde, c'est-à-dire qu'il avait vu le pacte germano-soviétique. Il pensait que il faut pas oublier. Moi, j'étais dans le bus récemment. J'ai un ami qui m'envoyait un texto qui me disait, pour une déclaration d'un membre du gouvernement, qui disait « il faut célébrer les 100 ans d'amitié franco-allemande ». Et il avait ajouté « surtout entre 40 et 45 ». Et devant l'ignorance absolue de notre époque par rapport au passé, on ne se rend pas compte du tout ce qu'était la situation en 52. C'est-à-dire que la Corée venait d'être envahie par les communistes, la Corée du Sud, la Chine était tombée dans le giron communiste, la dictature s'était installée en Pologne, en Tchécoslovaquie, partout dans tous les pays de l'Est. Donc il y avait une vraie menace. Alors c'est pas que le Parti communiste américain pouvait faire la révolution. Bien sûr, ils étaient incapables de le faire, mais ils travaillaient pour une puissance étrangère. Regardez les Rosenberg, regardez Alfred Alberist. Donc il y avait. Alors,
comme j'ai dit, Michel, on va pas refaire.
Non,
mais
c'est intéressant.
C'est intéressant, c'est de voir aussi comment ça se traduit dans son cinéma.
Dans son cinéma, ça se traduit effectivement par la complexité. C'est-à-dire qu'à partir de Un tramway nommé Désir, Kazan, avec Tennessee Williams, passe du côté de Tennessee Williams et non pas d'Arthur Miller. Il va mettre encore des pièces d'Arthur Miller en scène, mais il est beaucoup plus attaché à Tennessee Williams, parce que Tennessee Williams, c'est l'ambiguïté, c'est les contradictions, c'est la dialectique, etc. Alors qu'Arthur Miller, c'est effectivement l'ancien membre du Parti communiste, avec une vision complètement manichéenne. Donc ça va enrichir le cinéma de Kazan, qui va devenir effectivement beaucoup plus complexe, et d'une certaine façon, cette dénonciation qu'il faut condamner. Il ne s'agit pas pour moi de justifier ce qu'il a fait, mais ça s'inscrit dans une trajectoire qui l'amène à faire de grands films.
Et Tennessee Williams, il va vite le retrouver d'une manière très étrange.
Baby doll!
If you're so impatient, just go ahead without me. Just go ahead. I've got plenty of ways of getting downtown without you.
That's the truth. You come on!
Get your cotton picking tail down here. Take your time.
Get into the car.
I will get in the back seat of that scatterboat when you get out and walk around and open the door for me like a gentleman.
Well, you're going to wait a long time if that's what you're waiting for.
Well, I declare, my father would turn over in his grave.
I never once saw your father get out and open the car door for any woman, and especially not your water-legged mother. Now get on in!
Nouvelle collaboration donc d'Elia Kazan avec Tennessee Williams, c'est Baby Doll. On a entendu Karl Malden crier Baby Doll descend l'escalier, vient me rejoindre dans la voiture, cette vierge éternelle qu'est Baby Doll, en tout cas peut-être plus pour très longtemps pendant le film. Alors c'est pas une adaptation directe d'une pièce qu'il aurait montée avec Tennessee Williams, hein. Ce sont deux courtes pièces de jeunesse de Tennessee Williams que Kazan lui demande de réécrire et d'en faire un scénario pour ce film. C'est un film très étonnant, Florence Colombani, parce que il est complètement en dialogue avec Un tramway nommé Désir, c'en est presque la parodie.
Oui, c'est une sorte de comédie amère, là où Un tramway nommé Désir est une tragédie, et toujours autour des mêmes thèmes, du sud en décomposition, avec dans les deux cas une plantation. Alors dans Baby Doll qu'on voit, hein, qui est le cadre de l'essentiel du film, alors que dans Un tramway nommé Désir, c'était une maison qu'on évoquait énormément et qui représentait un paradis perdu pour les personnages. Et puis toujours ce personnage de la belle du Sud, cet archétype qui au cinéma a existé avec force sous le visage de Scarlett O'Hara dans Autant d'emporte le vent. La belle du Sud, c'est-à-dire la jeune fille élevée pour être désirée, convoitée, pour être dans une sorte de jeu de séduction avec les hommes, mais sans jamais jamais finalement livrer totalement ce qu'elle voudrait peut-être livrer, ou en tout cas ce que les hommes en attendent. Et donc ça nous amène à ce personnage extrêmement attachant, intéressant, beaucoup plus complexe que sa caricature, qui est cette fameuse publicité de Carol Baker, l'actrice suçant son pouce dans un berceau en nuisette, voilà, qui fera le scandale et le succès du film. Mais en fait, le personnage dans le film est beaucoup plus intéressant que ça. Et donc, on retrouve dans Baby Doll un acteur très important d'Un tramway nommé Désir, qui est Karl Malden, qui est par ailleurs un acteur fondamental dans l'œuvre de Kazan, parce qu'il a aussi un très beau rôle dans Sur les quais.
C'est le prêtre de Sur les quais.
Voilà, il joue le prêtre dans Sur les quais. Et là, c'est Archie Lee, c'est-à-dire le mari insatisfait de Baby Doll. Et c'est un personnage à la fois comique et tragique, parce que rongé par cette frustration sexuelle, dans un désir de propriété, de possession, et en même temps de fierté de posséder cette plantation, mais dont la maison a été totalement vidée de ses meubles par des usuriers. Donc il y a ce thème du Sud qui avait tant fait souffrir Tennessee Williams, dont il était originaire, et qu'il avait tellement rejeté à cause de son homosexualité, notamment, au point d'ailleurs que quand le film se tourne, Tennessee Williams ne passe que 2 jours sur le tournage et repart malade comme un chien, parce qu'il ne supporte pas d'être là. Et donc finalement, on a un film avec beaucoup d'humour et beaucoup de noirceur, et puis aussi un grand pas de deux érotique, qui est cette scène de la balançoire.
Voilà, beaucoup de noirceur, beaucoup d'humour et beaucoup de cinéma. C'est ça qui est très étonnant, c'est qu'il va prendre Tennessee Williams tout en lui reprochant de trop parler, enfin d'être trop théâtral d'une certaine manière. Et cette fameuse scène de la balancelle, il dira, il y a 15 ans, que c'est vraiment, il vous le dira, exactement mon idée de l'érotisme. C'est un moment où on écoute presque plus ce qui se dit. Ce qui compte, c'est purement la mise en scène, c'est-à-dire la recherche chez Kazan d'une émotion purement cinématographique qui dépasse la parole.
Oui, c'est un sommet de la direction d'acteur, c'est-à-dire cette balançoire. Le texte de Williams, qui est magnifique, quand l'homme parle de la beauté de cette femme, etc., c'est une poésie incroyable. Et puis, c'est cette caméra qui s'approche, qui filme vraiment le grain de la peau, c'est d'une sensualité absolument étonnante. Et c'est vrai que Kazan était attiré par le Sud, c'est très intéressant. Bon, c'est vrai que c'est un émigré, il vient de Turquie, grec de Turquie, donc il y a cette vieille culture méditerranéenne, il la retrouve dans le Sud. D'ailleurs, le Sud de l'Italie, la Sicile, a donné de grands écrivains aussi. Le Sud produit avec cette décadence, cette pauvreté, cette misère, etc., cette grande culture aussi, produit des artistes partout. Et le sud des États-Unis, Kazan y était allé très jeune au moment du New Deal, il était parti dans le sud, et c'est par exemple le fleuve sauvage, c'est le sud, un homme dans la foule, c'est le sud, Baby Doll, c'est le sud, Panique dans la rue, c'est le sud, un tramway dans le désert, c'est le sud. Donc il est fasciné par cette culture, justement, qui est aussi anti-puritaine, curieusement. Elle est beaucoup plus libérale qu'on ne le croit, même s'il y a beaucoup de racisme et qu'il y a beaucoup d'horreur dans le sud des États-Unis. Mais on voit que c'est une partie du pays, une culture qui le fascine.
En parlant du sud, mais restons-y.
Maybe I'm just a country boy. But the president tries to stop me. I'll flood the White House with millions of telegrams. I'm mean and I can break him. Because the people listen to Lonesome Roads. Because the people love Lonesome Roads. Lonesome Roads is the people. The people is Lonesome Roads. Beat it. Oh,
Alors cette voix n'est pas celle de Donald Trump, ça pourrait par moment, et c'est d'ailleurs un film très intéressant à regarder aujourd'hui. Michel Simon, c'est Un homme dans la foule, vous y faisiez référence. Lonesome Roads, on est à la fin du film. Il faut préciser que les applaudissements qu'on entend ne sont pas ceux d'un vrai public, mais d'une machine à applaudissements. Lonesome Roads, ce chanteur folk devenu par la puissance de sa parole, par la puissance de sa voix, le grand manipulateur de la politique américaine. C'est l'émergence de la télévision à l'époque, et il faut préciser que le film est tourné bien avant le débat Nixon-Kennedy, bien avant l'émergence de politiciens qui vont comme ça manipuler par le système médiatique. C'est un film extraordinairement visionnaire, Michel Simon, cet homme
oui,
dans la foule.
Oui, je ne comprends pas d'ailleurs que depuis un an et demi que le monde entier souffre sous Trump, qu'aucun distributeur n'ait ressorti ce film de Kazan et Bud Schulberg, parce que c'est le scénariste évidemment
encore lui,
de Sur les quais, deux blacklist, enfin deux plutôt qui ont encouragé la liste noire, et qui sont restés des gens de gauche. C'est-à-dire, ce qui est ça qui est fascinant, c'est que Kazan, ensuite, a été beaucoup plus engagé qu'il n'était avant sa dénonciation. Il a fait un cinéma très contestataire et très peu suivi par la critique. La critique a commencé à abandonner Kazan quand il avait un talent exceptionnel pour dénoncer justement les tares de l'Amérique. Et là, c'est vraiment la critique du populisme, la critique de cet homme qui méprise les gens et qui, d'un seul coup, alors qu'on rétablit le micro, il continue à blasphémer contre le peuple, etc.
Ce qui provoque sa chute. Quand on est populiste, quand on s'appuie sur le peuple peut vous abandonner immédiatement s'il se sent méprisé.
Voilà, c'est d'après une nouvelle de Bud Schulberg, et c'est effectivement là encore un inconnu. Ce qui est frappant chez Kazan, à mon avis, et on n'en parle pas assez, c'est pour ça que Kubrick disait de lui que c'était le plus grand metteur en scène américain de son temps, parce que c'est un homme qui a toujours découvert les gens. Alors, prenons l'exemple, par exemple, de Sur les quais. Kazan adorait Vigo, il adorait Renoir, il adorait Pagnol, il adorait le cinéma soviétique, il adorait le réalisme. Bon, il découvre que le chef opérateur de l'Atalante fait des films pharmaceutiques, des films médicaux dans un laboratoire de Brooklyn.
Boris Kaufman.
Il n'a jamais tourné, puisque étant juif, il a dû quitter la France et il s'est retrouvé aux États-Unis sans travail. Kazan lui dit « Je vous confie la photo de Sur les quais ». C'est-à-dire qu'il lui donne la responsabilité de son retour au cinéma avec Sur les quais. Et Kaufman, qui fait également la photo de Baby Doll et La fièvre dans le sang, est un immense chef opérateur. Tout ça, c'est par amour de Vigo et par confiance dans Kaufman. Il y a peu de cinéastes à Hollywood à l'époque qui prendraient un inconnu qui n'a pas travaillé depuis 20 ans pour faire la photo d'un film. Et c'est comme ça avec tous ces films. Leonard Bernstein, par exemple, la musique de Sur les quais, c'est la seule composition de Leonard Bernstein pour le cinéma. Il n'en a pas fait d'autres. Constamment, et là, il prend Andy Griffith, un acteur complètement inconnu. Il n'arrête pas de découvrir. Il découvre Brando, il découvre James Dean, etc. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'expérimentation.
Et y compris dans la manière de montrer cette mise en scène de la manipulation. Dans Un homme dans la foule, il fait bien attention à ce que le spectateur ne soit pas dans le même état que le public qui est captivé par la voix de Lonesome Roads. Il va nous montrer les coulisses, il va nous montrer comment ça fonctionne.
Oui, Un homme dans la foule, c'est aussi un film sur la mise en scène, puisque c'est un tandem qui composé de la créature Lonesome Roads et de son metteur en scène, qui est une femme, Marsha, jouée par Patricia Neal. Et on voit comment cette femme, peu à peu, est dépassée par sa création et effarée. Enfin, c'est un peu une variation sur Frankenstein, au fond. Et ce qui est assez remarquable, c'est que c'est un film qui s'ancre dans un folklore américain, puisque Lonesome Roads, c'est d'abord un chanteur. C'est un peu l'équivalent, en effet, de ce que serait une star de la télé-réalité aujourd'hui, puisque c'est un chanteur de country qui, donc, a une emprise sur le peuple par ça, et aussi qui est la voix du peuple, littéralement, puisque ses chansons racontent des histoires traditionnelles et puis lui donnent un vernis, comme ça, de familiarité avec l'Amérique profonde. Et elle le tire de son trou pour en faire ce phénomène grâce aux médias, grâce à la radio à l'époque. La grande différence, je pense, enfin ce qui fait que la réalité a dépassé la fiction, c'est que comme Donald Trump l'a dit lui-même, il pourrait tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue et ses électeurs ne l'abandonneraient pas. Alors que dans Un homme dans la foule, il suffit qu'on entende la véritable voix de Lonesome Roads pour que les gens l'abandonnent.
On est allé bien au-delà de la vérité aujourd'hui.
Are you out of your goddamn mind?
Clean. And when are you going to change to Zephyr?
Now, what is it? Your mother's fault, your father's fault. What's that, Freud? You are you, kid. Eddie Anderson, the indispensable man. All right. Let's get down to nuts and bolts.
Congratulations.
Congratulations.
I've always said time...
You had power then. Remember what it felt like? Power.
Ram it in.
Power. The fact is, without your job, and without the money in your pocket, you're nothing. Well, look at you. You know the most impressive part of you right now? That cigar. Hey, don't look at me like that, baby. Because if you think you're going to get rid of me, you're out of your goddamn mind.
Yeah, the perfect arrangement. Fat job, beautiful house, understanding wife. All the side nookie you could handle. You had it all. You did.
Vous écoutez France Culture, Plan Large se penche sur le cas Kazan avec Michel Simon et Florence Colombani. Si vous avez bien prêté l'oreille, vous aurez entendu le mot arrangement. Hein, tu avais l'arrangement parfait. Vous aurez peut-être moins entendu que Kirk Douglas, qui joue Eddie Anderson dans ce film d'Elia Kazan, l'arrangement en 1969, se parle à lui-même. On est dans une figure un peu à la Arthur Miller. Il va se voir aussi enfant avec ses parents, adolescent. Woody Allen reprendra d'ailleurs lui aussi cette formule. Vous avez évoqué tout à l'heure la mort d'un commis voyageur, Florence Colombani, lui aussi monté en 1947, année faste, et qui n'a jamais adapté au cinéma, Elia Kazan, mais finalement, l'arrangement, c'est un peu sa mort d'un commis voyageur.
Oui, dans le sens où il y a cette incroyable porosité entre le monde intérieur du personnage et ce qu'on voit, donc ce qu'on voyait sur scène dans Mort d'un commis voyageur, ce qu'on voit à l'écran dans l'arrangement, qui est un film d'une audace formelle assez sidérante et qui est par ailleurs un très bel exemple de l'utilisation de l'acteur par Kazan, puisque pour jouer ce personnage qui a un nom américain mais une identité grecque, donc un autre nom caché sous son nom américain.
Eddie Anderson s'appelle Evangelos Topozoglou.
Voilà, il prend Kirk Douglas, qui lui-même s'appelle Issour Danielovitch Demski, qui est donc un juif russe émigré et qui n'avait jamais eu l'occasion de jouer ça, cette dualité. C'est un des plus beaux rôles de Kirk Douglas, c'est vraiment assez extraordinaire. C'est un film d'une grande cruauté, un autoportrait d'une grande cruauté de la part de Kazan, d'abord parce qu'il se met en scène en publicitaire au lieu d'être fidèle à la réalité, au fait qu'il était un grand artiste. Il réduit l'activité du personnage à simplement celle d'un agent de la société de consommation. Ça lui permet aussi un commentaire sur l'époque qui est assez cinglant. Et puis, c'est surtout la peinture d'un homme éternellement dans la compromission. En même temps, il y a un jugement moral de Kazan sur lui-même et sur le comportement du personnage, et en même temps une sorte de reconnaissance assez forte du fait que la compromission, c'est le seul moyen de survivre. Et ça, c'est un thème très présent chez Miller. Et l'autre thème commun, c'est bien sûr le rapport au père. Alors le film, l'arrangement, montre aussi la cruauté du rapport père-fils, et bien sûr, Mort d'un commis voyageur, c'est la grande pièce du rapport père-fils et de sa tragédie.
C'est une sorte de suite directe d'America America, dont on entendait un extrait tout à l'heure en ouverture de l'émission, Michel Simon. Et c'est aussi un moment de bascule dans le cinéma d'Elia Kazan, sans doute sous l'influence de Barbara Loden, qui sera sa seconde femme, celle qui réalisera plus tard le formidable Wanda, et qui va le pousser comme ça vers quelque chose de plus directement autobiographique.
Écoutez, on ne sait pas grand-chose. Enfin, moi, je les connaissais tous les deux. J'ai une grande admiration pour Wanda, qui est un film magnifique. C'est un premier film qui lui a permis ensuite de tourner Les Visiteurs, parce que l'exemple de tourner en Super 16, etc., ou en 16, ça a encouragé Kazan. Ça, je pense que l'influence de Barbara Loden était réelle. Pour le passage à l'autobiographie, je ne pense pas. Enfin, c'est possible, mais je pense que tout allait dans cette direction. C'est-à-dire, Kazan est passé, comme le dit Roger Tailleur, qui a écrit le meilleur livre sur Kazan, excusez-moi. Votre livre est excellent, mais le livre de Roger Tailleur était le premier, en tout cas, qui m'a beaucoup marqué.
Il a fait un livre de référence.
Il est passé du huile au tu et au jeu. Et à partir, effectivement, de America America, c'est le jeu qui domine, qui va continuer avec avec l'arrangement. Donc je pense que c'est un itinéraire personnel. Je pense que... Alors, non, mais Barbara Lodens, il y a tout de même quelque chose d'assez fascinant dans l'histoire de l'arrangement, c'est que Barbara Lodens devait avoir le rôle et que la Warner a imposé une vedette, et donc
Jessica
c'est
Fede Dunaway,
qui d'ailleurs est magnifique dans le film. Dunaway, mais pardon. Je pense que ça a contribué à casser le mariage d'Elia Kazan, parce que c'est vrai que Barbara Lodens ne lui a pas, sûrement pas pardonné que finalement il a cédé. Compromission, là encore. Il fallait, pour le budget de l'arrangement, il fallait absolument avoir une star. Et voilà. Et ça a été le début d'une faille dans leur mariage.
Cruauté supplémentaire.
Florence Colombani.
Barbara Lodens a été doublée par Faye Dunaway au théâtre. Dans Après la chute, mise en scène par Elia Kazan, une pièce d'Arthur Miller sur Marilyn Monroe. Donc elle voit sa doublure devenir la star du film, et en plus dans le rôle de la maîtresse du personnage principal, c'est-à-dire le rôle qu'elle avait tenu, elle, dans la vie, jusqu'à la mort de la première femme d'Elia Kazan.
Et ce qui est très passionnant, si on articule, parce que souvent il faut articuler les films de Kazan entre eux pour bien les comprendre, quand je disais que c'était une suite d'America, America, America, America montre comment on devient américain, et ce qu'il faut faire de compromissions aussi, et de crimes, et de difficultés pour devenir américain, et l'arrangement, Florence Colombani montre ce que c'est que d'être un Américain. Les premiers plans, pour ça, sont incroyables, sur le consumérisme américain, sur les gadgets, sur l'organisation de la vie sociale.
Oui, il y a une scène où Kirk Douglas se réveille à l'hôpital et voit un documentaire sur les grands fauves qui dévorent leur proie, et clairement, la vision de la société, c'est celle-là. Et en effet, dans America, America, qui est une sorte de récit initiatique d'un personnage qui se constitue dans son voyage vers l'Amérique, c'est une suite d'étapes qui marque aussi une descente aux enfers. Peu à peu, le personnage abandonne tout ce qu'il peut avoir de sens moral pour en arriver, pour vraiment arriver aux États-Unis. Et une fois qu'on est américain, c'est comme si le sens moral de toute façon avait été aboli, et l'arrangement est là d'emblée.
Michel Simon.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que lorsque America America sort en 1963, je crois, il n'y avait pas eu, depuis L'immigrant de Chaplin, qui est de la fin des années 10, de véritable film sur l'immigration. C'est une chose que les Américains n'aiment pas connaître, d'où ils viennent, des taudis, de la trahison, de la prostitution, etc., pour arriver en Amérique, tout ce qu'il a fallu faire pour arriver en Amérique. C'est un secret que l'on garde en famille, on n'en parle pas. Depuis, il y a eu évidemment plusieurs films, dont James Gray, etc., il y a eu d'autres films.
Encore un héritier de Kazan, James Gray.
Mais il n'y en avait pas jusqu'à, je crois, peut-être il y a eu une exception, mais pratiquement aucun film pendant 40 ans sur, justement, près de 40 ans, sur l'immigration.
Pour comprendre l'Amérique, il faut regarder les films de Kazan.
Oh, good night, moon. Moon, you just fade, 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 fade away. Oh, good night, moon. Moon, you just fade away. And hurry up, Mr. Sun. Bring on new day. Oh, bring on the sheriff. With his great big old key. Yeah, bring on old Big Jeff, the sheriff of Piggy, Arkansas, with his great big old fat key. To open up his nasty, filthy jailhouse and make a free man of me.
How about that, Lou? You got any objection to being a free man in the morning?
No, sir, I ain't.
Gonna be a free man in the morning, free man in the morning, free man in the morning, I know the reason.
All right, I'm ready to let me.
Thank you, Lonesome Rhodes. That was just fine.
Sur ce blues sifflé par Lonesome Rhodes dans Un homme dans la foule, il me reste à vous remercier tous deux, Michel Simon, Kazan par Kazan. Alors on ne le trouve plus, mais les entretiens avec Kazan qui étaient sont publiés en intégrale, croisés avec ceux de Joseph Losey. Alors c'est le choc et la confrontation magnifique. C'est chez Stock en coédition avec France Culture. Florence Colombani, Elia Kazan, une Amérique du chaos, c'est aux éditions Philippe Ray. Et puis la rétrospective Elia Kazan à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 2 janvier. À noter que Bernard Eisenschitz reviendra sur les ambivalences du cinéaste. C'est le nom de sa conférence. Ce sera le 13 décembre à 19h. Kazan, on l'a dit, admirait beaucoup Eisenstein. Et s'il était parmi nous, il se réjouirait donc sans doute de l'édition en Blu-ray pour la première fois du Cuirassé Potemkin. C'est édité, ça ne s'invente pas, chez Potemkin, dans un très beau et riche coffret, coffret à mettre en parallèle avec la publication aux presses du réel du Cinéœil de la Révolution, les écrits sur le cinéma de Dziga Vertov, nouvelle traduction et présentation par François Albera, Irina Tcherneva et Antonio Somaini. Antonio Somaini qui était d'ailleurs venu parler d'Eisenstein dans Plan Large, c'était l'an dernier. Et puis nouvelle livraison aussi de l'excellente revue d'histoire du cinéma 1895, dont le numéro 85 est largement consacré à Vertov. Les amateurs de Bernanos et de mauvais genre ne manqueront pas, eux, de se précipiter à la Cinémathèque de Toulouse. L'ami François Angelier viendra y présenter mardi prochain, 4 décembre, le journal d'un curé de campagne et le dialogue des Carmélites, après une conférence intitulée « Mais le cinéma n'est pas la guerre, Bernanos, spectateur », un probable régal. Mais pour rester encore un peu dans l'univers d'Elia Kazan, allez, encore une histoire de filiation.
I like to drink wine more than I used to. Anyway, I'm drinking more.
It's good for you, Bob.
I don't know. Your wife and children, are you happy with them?
Very happy.
That's good. I hope you don't mind the way I keep going over this Bassini business.
No, not at all.
It's an old habit. I spend my life trying not to be careless. Women and children can be careless, but not men. How's your boy?
He's good.
You know, he looks more like you every day.
He's smarter than I am. 3 years old, he can read the funny papers.
Reads the funny papers. I want you to arrange to have a telephone man check all the calls that go. You're not able.
I did it already, Pop.
You know, good man.
Pop,
anyone.
I took care of that.
Oh, that's right. I forgot.
What's the matter? What's bothering you? I'll handle it. I told you I can handle it. I'll handle it.
Le témoignage d'Elia Kazan devant la commission des activités anti-américaines, on y revient, mais a sans doute empêché ses fils spirituels du nouvel Hollywood, Francis Ford Coppola et Martin Scorsese, de le reconnaître totalement comme un père. Et c'est donc par les acteurs que s'est opérée cette filiation. Coppola, je vous cite, Florence Colombani, fait de la trilogie des parrains un condensé magistral de ce que Kazan a apporté au cinéma. Le rapport de transmission qui existe entre Vito Corleone et son fils Michael, ce qu'on vient d'entendre, se nourrit de ce que l'acteur studio, l'acteur Marlon Brando en l'occurrence, apporte à son cadet le jeune Al Pacino. Al Pacino, l'acteur studio comme art de vivre ou encore Method Man, c'est ainsi que ce film en fait le portrait dans son nouveau numéro, en partant du One Man Show, assez onéreux, il faut le dire, qu'il a donné le 22 octobre au Théâtre de Paris. Il y est question du Pacino's Blast, l'effet de souffle Pacino et d'une application toute personnelle en fait de la méthode de Lee Strasberg par Al Pacino. Si Pacino est l'un des tout meilleur de sa génération, c'est en dépit de la méthode et non grâce à elle. C'est ce qu'on lit dans ce film, Fernando Gonzo.
Oui, parce que le souffle de Pacino, le souffle d'acteur de Pacino, il est lié à celui de l'acteur studio, mais comme toute filiation, vous disiez bien, c'est une histoire un peu plus compliquée que ça, et il faudra remonter jusqu'à 1923, et quand le Théâtre d'art de Moscou, dirigé par Konstantin Stanislavski, fait une tournée dans la ville de New York, et que dans la salle, il y a un jeune de 22 ans, qui s'appelle Lee Strasberg, apprenti acteur, vit une révélation. Ce qu'il voit sur scène, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Les acteurs russes se parlent vraiment, vivent la pièce avec authenticité et transmettent une émotion très puissante au public, ce qui va un peu plus tard l'amener à créer en 1931 le groupe Theater, on en parlait tout à l'heure, un regroupement hétéroclite des jeunes acteurs, auteurs, metteurs en scène qui travaillent selon les principes du maître russe, parmi eux Elia Kazan évidemment, mais aussi Sidney Lumet par exemple, qui va diriger 40 ans plus tard Al Pacino dans Serpico et Un après-midi des chiens. jusqu'à ce qu'avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale et des sévères dissensions internes vont amener à la dissolution du groupe. Et une autre séparation, à peu près à ce moment-là, va toucher de très près la vie d'Alfredo James Pacino. Et c'est celle de ses parents. En 1942, et le petit Pacino va passer les années qui suivent chez ses grands-parents dans un appartement du South Bronx, où il va vivre dans une ambiance surprotégée. Et c'est sa seule ouverture au monde, c'est quand sa mère vient le chercher pour l'amener voir des films le soir. Et l'enfant Pacino, il va développer une habitude, c'est qu'à chaque fois qu'il va rentrer chez lui, il va réjouer les scènes qu'il vient de voir au cinéma. Pendant ce temps-là, peu après la guerre, le groupe Theater va renaître en quelque sorte de ses cendres avec la création de l'Actor Studio en 1947, fondé notamment par Elia Kazan, avant qu'Elie Strasberg n'en prenne la direction artistique dans les années 50. Et c'est là que le travail sur la méthode va se définir de plus en plus, à savoir, on en parlait, l'acteur doit puiser dans sa propre expérience, dans sa mémoire affective, pour nourrir émotionnellement le personnage ou la situation qu'il est censé en carnet. Et avant d'intégrer l'Actor Studio, Pacino aura une première expérience avec la méthode quand il rentre à la Manhattan School of Performing Arts, qui est, on va dire, un lycée option théâtre, où les cours proposent déjà quelques aspects de la méthode, sauf que Pacino, à ce moment-là, trouve ça extrêmement ennuyeux et il va dire « Qu'est-ce que je connais de Stanislavski ? Il est russe, moi je viens du Bronx. » Et ce qui va surtout l'impressionner, c'est quand il va voir au cinéma les performances de Marlon Brando et de James Dean, tous les deux membres de l'Actor Studio. Et là, oui, il est décidé, il veut intégrer l'Actor Studio, ce qu'il fera à la troisième tentative en 1966, par ailleurs dans la même promotion que Robert De Niro et Dustin Hoffman. Mais,
belle année.
Mais là, déjà, on peut mettre un peu en question effectivement cette filiation, parce qu'il va plutôt rester en retrait, de par sa nature timide. Il va interpréter très peu de rôles dans l'Actor Studio, et c'est surtout le fait d'aller souvent chez Lee Strasberg pour manger chez lui, pour écouter de la musique classique, qui va, et cette relation affective, c'est celle-ci qui va donner à Pacino la confiance dont il avait besoin, et qui va lui permettre de se lancer à l'assaut des années 70, où il enchaîne, on connaît tous, Panic à Needle Park, Le Parrain, L'Épouvantail, Serpico, Le Parrain 2 et Un après-midi des chiens. C'est pas rien. Mais Lee Strasberg meurt en 1982. Et ce qui est intéressant, c'est que ces disparitions, qui affectent beaucoup Pacino, coïncident avec une inflexion majeure dans son jeu. Au théâtre, il joue dans American Buffalo de David Mamet, un auteur qui défend un jeu direct, sans psychologie aucune, et qui critique d'ailleurs avec virulence l'héritage de Strasberg. Et au cinéma, Pacino va interpréter Tony Montana dans Scarface. On imagine très bien ce rôle, une approche expressionniste ou très extrême, bien loin en tout cas du jeu naturaliste prôné par la méthode. Et là, 35 ans plus tard, ces virages sont retour, peut-être, à une époque où les rôles marquants des Pacino deviennent de plus en plus rares. Où est-ce qu'il en est de cette approche de Lee Strasberg? Eh bien, il dit « Je suis souvent considéré comme un acteur de la méthode et peut-être que je le suis réellement, mais personnellement, je n'ai pas ce sentiment. Sans doute suis-je influencé par elle, mais je prends aussi mes distances avec elle. Je pense en fait que chaque acteur doit, selon l'expression de Brecht, trouver les mots de sa pièce. Vous devez trouver ce qui vous permet d'être vous, d'être vrai, d'être vivant, que ce soit grâce à la méthode ou non. » Et s'il faut reconnaître quelque chose à Pacino, c'est que son souffle, il est vrai ou il a été vrai, et surtout il l'aurait poussé jusqu'au bout.
Okay. Open up the limit.
Merci Fernando Gonzo, le nouveau numéro de ce film avec Al Pacino, mais aussi Alfonso Cuarón en couverture et son très attendu Roma, c'est à partir de jeudi dans les kiosques. Et puis le nouveau positif de décembre, Michel Simon, fait lui sa couverture avec Steve McQueen, avec également à l'intérieur un beau dossier sur Miloš Forman. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Nicolas Slimani. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, plan large sur un grand directeur de la photographie, Dario Kondji. Nous irons à sa rencontre en compagnie du critique américain Jordan Mintzer, auteur d'un livre d'entretien richement illustré que publient les éditions Synecdoque. Auparavant, j'aurais retrouvé les fidèles spectateurs de nos séances France Culture pour l'avant-première d'un film très étonnant, Pig, de l'Iranien Mani Haghighi, suivi comme toujours d'un débat avec lui. Ce sera dans deux jours, lundi à 20h30 au Majestic Bastille à Paris. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.